Revue de presse avec Philippe Gault.
Bonjour Philippe.
Bonjour François et bonjour à tous.
La pénurie, c'est le mot qui revient partout dans la presse ce matin.
Oui, la presse qui nous propose ce matin un périple autour de la pénurie énergétique, précisons-le, et de ses conséquences. En Allemagne tout d'abord, où selon le Figaro, sous pression russe, on craint un hiver de pénurie. Car Moscou voit en Berlin le maillon faible de l'Europe. Dans son éditorial, Philippe Gély constate que le colosse économique de l'Europe se découvre en effet à la merci du Kremlin, qui joue avec le robinet du gaz comme un chat avec une pelote de laine, l'idée étant de déstabiliser l'Allemagne pour fragiliser la cohésion européenne. Le Figaro, dont le correspondant outre-Rhin, raconte notamment que les Berlinois se ruent chez les marchands de bois et de charbon, mais également sur les radiateurs électriques, dont les ventes ont augmenté de 25%, une ruée vers l'approvisionnement qui n'existe dans aucun autre pays occidental, précise David Philippot.
La Grande-Bretagne subit également les conséquences de cette pénurie énergétique.
La hausse de l'énergie perturbe les Britanniques, titre La Croix. Les Britanniques qui ont vu l'inflation au Royaume-Uni passer la barre symbolique des 10% sur un an en juillet, ce qui se traduit par des mouvements sociaux qui ont pris de l'ampleur depuis la fin de la semaine dernière sur fond d'instabilité politique, précise Libération, mais aussi une mobilisation citoyenne, notamment avec l'initiative Don't Pay, ne payez pas, qui incite les citoyens à arrêter les prélèvements automatiques liés à leurs factures d'énergie si les compagnies de gaz et d'électricité ne baissent pas leurs tarifs. Un mouvement qui a déjà mobilisé plus de 110 000 personnes grâce aux réseaux sociaux et qui espère atteindre la barre symbolique du million de récalcitrants d'ici le 1er octobre.
Alors, en grande partie à l'origine de cette crise énergétique, la Russie voit également son économie fragilisée.
Dans ses pages saumon, le Figaro nous indique en effet que Moscou commence également à payer le prix fort après 6 mois de guerre en Ukraine et surtout de représailles économiques. Et même si en Russie, précise le Figaro, les recettes pétrolières et gazières coulent à flot, l'industrie notamment, très dépendante des technologies occidentales, commence sérieusement à souffrir et à recours au système D. Le journal cite l'exemple du constructeur automobile Avtovaz qui a relancé la fabrication d'un vieux modèle de Dacia, mais sans airbag ni ABS, faute de composants à importer. Un début de crise économique qui pousse également les moscovites à réfréner leurs achats quotidiens. Les prix ont augmenté de 13,4% en moyenne et l'heure est au repli de la consommation. Dans les bars moscovites, par exemple, où la modération de la consommation est quelquefois un peu respectée, et bien dans ces bars, on met moins d'alcool dans les cocktails. 30 millilitres au lieu de 40, explique un propriétaire de plusieurs établissements.
C'est assez malin. En Chine aussi, la pénurie énergétique a des conséquences sur l'économie.
Oui, la Chine, où on commence à restreindre l'électricité, signale les Échos. Alors là-bas, ce n'est pas à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais essentiellement en raison de la sécheresse et de la canicule qui sévissent et qui provoque un appauvrissement de la production d'énergie hydroélectrique. Un phénomène particulièrement marqué dans le Sichuan, dont 80% de l'électricité provient des barrages hydrauliques. Dans cette province, les autorités locales ont même décidé de rationner l'électricité. Les coupures de courant, qui devaient durer du 14 au 20 août, ont été prolongées jusqu'à jeudi prochain. Les barrages du Sichuan, qui fournissent également 10% de l'électricité de la région de Shanghai, où les autorités locales ont décidé, pour économiser cette ressource, d'éteindre hier et aujourd'hui les éclairages décoratifs féeriques mais dispendieux du Bund, la célèbre artère commerçante et touristique de la mégapole, véritable vitrine internationale de la Chine.
Dans 10 jours, ce sera la rentrée scolaire et là aussi les questions de pénurie.
Une rentrée des classes qui pose en effet question. Y aura-t-il un prof dans chaque classe, se demande le Parisien aujourd'hui en France, qui consacre un long et complet dossier à ce sujet à grand renfort de chiffres inquiétants. Rien qu'en mathématiques, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale cherchait à recruter cette année 1035 professeurs. Et ce n'est pas la matière la plus mal lotie. Le quotidien indique que c'est pour l'enseignement de l'allemand que le recrutement s'avère le plus compliqué, avec 45% de postes non pourvus au concours 2022, devant les lettres classiques 43%, la physique chimie 33% et les maths 31%. L'anglais s'en tire plutôt mieux avec seulement 8,6% de postes non pourvus. Le Parisien rappelle que le chef de l'État a promis lors de sa campagne un gros coup de pouce salarial pour une profession sous-payée. On parle de 3,6 millions d'euros prévus pour 2023. Mais dans son éditorial, Jean-Michel Savator estime que si l'argent est nécessaire, il ne peut être la seule réponse au malaise. Il faut aussi redonner du sens et des perspectives d'évolution à ces métiers, précise-t-il.
Alors il y a également le problème de la pénurie de chauffeurs de cars scolaires.
Oui, c'est l'autre question que se pose La Croix à sa une. Y aura-t-il des cars scolaires à la rentrée? Alors qu'il manquerait, selon les responsables du secteur, de 3700 pour l'Association des régions de France à plus de 7500 conducteurs pour la Fédération nationale de transport de voyageurs, chauffeurs de cars scolaires, un métier en panne d'attractivité, selon le quotidien catholique, qui rappelle que ces conducteurs, souvent employés à temps partiel, gagneraient en moyenne seulement 800 euros par mois. Un salaire, on l'imagine, insuffisant pour attirer les candidats. Selon les acteurs du secteur, cette pénurie n'est pas vraiment un phénomène nouveau. Cela fait près de 6 ans que ça dure, mais cette baisse des effectifs a pris une dimension particulière après la crise sanitaire du Covid-19, les chauffeurs ayant préféré se tourner vers le transport de marchandises qui a connu un très gros développement. En attendant, les parents de Chloé, collégienne dans l'Ain, citée par La Croix, ont réfléchi à un plan B s'il y avait des problèmes d'acheminement pour la rentrée la semaine prochaine. Le matin, c'est sa maman qui l'emmènera à l'école, mais pour le soir, ils n'ont toujours pas de solution.
Oui, ça peut être un petit peu gênant. Pour terminer, Philippe, une information stimulante.
Et c'est le Figaro qui nous dit tout sur la stimulation électrique au service de la mémoire, une technique qui produit des effets durables sur les performances cérébrales des personnes âgées. Selon les résultats d'une étude menée par l'Université de Boston et publiée hier par la revue Nature Neurosciences, Les séances de stimulation électrique intracânienne, c'est-à-dire au moyen d'un casque souple avec des électrodes, qu'ils ont pratiqué pendant 4 jours auprès d'une soixantaine de volontaires âgés de 65 à 88 ans, ont mis en évidence une amélioration des fonctions mnésiques, celles qui sont liées à la mémoire, dès le deuxième jour d'expérimentation. Alors certes, ces tests ont été effectués sur un panel de personnes plutôt en bonne santé et ne présentant pas de pathologie cérébrale, mais comme le précise le professeur Valero Sebré de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière de Paris, il ne faut pas oublier, c'est le cas de le dire, que ce sont les observations chez les sujets sains qui permettent ensuite d'avancer des solutions thérapeutiques. Voilà, c'est terminé pour moi, Renaud.
Moi, c'est François.
Excusez-moi.
Vous avez oublié mon prénom.
J'avais oublié.
C'est à cause de ces stimulations électriques.
Exactement.
Merci beaucoup.
J'ai pas été stimulé encore.
Allez donc vous stimuler un petit peu et revenez en forme avec une excellente mémoire pour la revue de presse demain, 8h30 sur Radio Classique. Philippe Gault, merci beaucoup. Il est 8h38. Virginie Calmes, présidente fondatrice de l'école Futura, et Jean-Paul Brighelli, spécialiste des questions d'éducation, sont nos esprits libres du jour dans un instant. Vous parliez d'éducation dans votre revue de presse, Philippe. On y vient. Quelles sont les solutions face au manque de professeurs?